apôtres sont arrivés pour nous servir d'exemple. Et à fin de compte, dans le chapitre 11, 2 à 16, il parle des hommes et des femmes dans le culte. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, plus près. Les femmes doivent se couvrir, les hommes doivent se couper les cheveux. Ensuite, on a au chapitre 11, le repas du Seigneur, à partir du verset 17 à 34, le désordre au repas du Seigneur, les agapes, qui étaient appelés dans ce temps-là. Et ça, ça sera une belle portion à faire ensemble, ça. Et ensuite, on arrive avec l'exercice des dons dans le chapitre 12, comme vous voyez, les 31 versets parlent de ça, grosso modo. Puis vous avez un des chapitres au chapitre 13, que même les non-croyants vont lire dans les mariages, l'amour. Un colérique comme Paul, qui a rencontré Jésus au chapitre 9 des Actes, inspiré, insoufflé de Dieu, il a écrit un des plus beaux chapitres qu'il n'y a pas sur l'amour. Ça, c'est une belle étude à faire aussi. Ensuite, au chapitre 14, 1 à 40, c'est l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Il parle d'unité. Chapitre 15, si vous cherchez un chapitre dans le Nouveau Testament qui parle de la résurrection, là, beaucoup de la résurrection, là, c'est chapitre 15. Vous lisez chapitre 15, là, vous avez vraiment, vraiment là, une bonne théologie concernant la résurrection. Et ça va terminer, je l'ai coupé en 16, on aurait pu le couper en 32, là, mais en 16, c'est ça, c'est la collecte qu'il va faire pour Jérusalem. Et ensuite, il y a les futurs voyages et les recommandations du fin de la lettre. C'est une des plus grandes lettres, n'est-ce pas? C'est une des plus grandes lettres du Nouveau Testament. Et pour mon sujet ce matin, je vais vous emmener dans une citation ici. 11, 18 et 19, il en a parlé au chapitre 3. Il va dire à ses Corinthiens, « J'ai des choses à vous dire. J'ai entendu parler. La maison de Chloé est venue. J'ai entendu parler de vous autres. Il y a des divisions. J'ai des choses vraiment que vous devez comprendre. » Mais vous êtes des bébés lalais, des nipios. Vous ne pouvez pas supporter quasiment ce que je vais vous dire. Le désordre est complet, comme Trevor a mentionné. C'est une église qui était menacée par un désordre, une immoralité vraiment, vraiment terrible. Et lorsqu'il va arriver à répondre aux questions par rapport à la table du Seigneur, il va donner cet avertissement. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions, irrésistes, qui veut dire école de pensée, parmi vous. Afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Quand j'étais jeune chrétien, ça m'a toujours troublé, ce verset-là. Pourtant, Dieu, c'est un Dieu d'unité. Comment se fait ça qu'il faut qu'il y en ait des divisions, des écoles de pensée, des manières de voir? Et avec les années, j'ai compris, en fin de compte, que le Seigneur permet ces choses-là. Le Seigneur ne l'exige pas, mais il le permet à cause de la dureté de notre cœur. Il permet ces choses-là afin que nous ayons, chacun de nous ici, hommes et femmes, enfants, tout le monde qui entend la parole, afin de discerner ceux qui sont vraiment de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Alors, c'est une sorte de test de discernement, le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. Pourquoi je dis que c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir? Bien, savez-vous combien de dénominations qu'il y a sur la terre, qui se dit chrétien? Il y en a 33 000 qui prennent la Bible, qui prennent Jésus, puis disent, nous autres, on a la vérité. C'est dans 238 pays, et c'est des chiffres, tenez-vous bien, de 1999. Est-ce que tu peux me reconnecter? C'est moi qui dois le faire? Oh. Excusez. Je vais laisser mon technicien. Moi, je suis capable de l'acheter, l'ordinateur, mais je ne connais pas ça. Puis, 33 000 dénominations. C'est-à-dire quoi, ça? 33 000, et c'est tout sous-divisé. Il y a des pages complètes dans les encyclopédies qui vous disent tout ça. Et tu te dis en toi-même, ouais, hein? Moi, là, j'avais 6 ans quand j'ai rentré à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine. J'en ai 68 aujourd'hui. Quand j'ai rentré à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine, il n'y avait pas de piano. Les femmes étaient toutes habillées comme la petite maison dans la prairie. Les hommes avaient presque tous des souliers noirs, à 99,9%. Même Luc m'avait dit une fois, « Papa, il dit, pourquoi les gars ont tous des souliers noirs à ta petite Seigneur? » Et ces choses-là m'ont fait réfléchir au travers des années, mais quand tu n'as pas sorti de ton assemblée, moi, j'étais dogmatique. Pour moi, c'était biblique. Et les autres n'étaient pas bibliques. Et il y a un gros mur qui était construit alentour de l'Assemblée où que on ne fréquente pas les baptistes, on ne fréquente pas les pentecôtistes, on ne fréquente pas les mennonites, on ne fréquente pas ça, parce qu'ils n'ont pas tout, ils n'aiment pas assez le Seigneur comme nous autres pour vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. Et toutes ces choses-là, en fin de compte, moi, ça m'a troublé. Puis là, la plus grande bénédiction que j'ai eue, moi, c'est quand M. Boitler m'a demandé de prendre soin de la librairie. Je l'ai lu. J'ai commencé à découvrir des auteurs qui n'étaient pas des assemblées des frères. Même d'ailleurs, je vous dirais, voyez-vous, j'ai 4 livres ici, là, c'est 4 dénominations différentes. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'eux autres, ils vivent dans leurs assemblées? Est-ce que je dois les approuver? Est-ce que je dois connecter avec eux? Est-ce que je peux m'associer avec eux? Et tout ça, avec les années, j'ai vécu des choses, j'ai lu beaucoup. J'ai eu des hommes aussi qui m'ont aidé à comprendre tout cela, des hommes de Dieu. Et ça m'a vraiment fait du bien. Puis aujourd'hui, à 68 ans, je réalise, j'ai passé beaucoup d'années à être enfermé dans un tiroir. On va revenir là-dessus. Vous savez, vous avez sûrement lu Timothy Keller, qui est un presbytérien réformé. Voyez-vous, l'Église est un hôpital pour les pécheurs et non un musée pour les saints. Lui, il fait beaucoup de choses comme ça. Il est considéré dans le monde évangélique comme le nouveau C.S. Lewis. Ceux qui connaissent C.S. Lewis, là. Lui, là, il y a un paquet de livres qu'il a écrits, là. On les a ici en français, la plupart, là. Il y a les idoles du cœur. Ah, souvenez-vous de le petit livre noir, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Comment ça s'appelle? La raison est pour. Ça vous dit ça? Lisez ça, vous allez voir. On l'a fait. Et je me dis à moi-même, oui, mais Timothy Keller, quand il va à New York, là, puis il s'assit dans son assemblée, comment ça marche? Est-ce que tout le monde vit dans le péché, là, parce qu'ils ne sont pas comme moi à l'Assemblée du Cap? Je pensais à des affaires comme ça. Puis, il y a bien plus que ça. Et à quelque part, quand on rouvre le rideau, ça c'est pour ça que je l'ai vu là, on voit ici Stéphane Demers. Non, c'est John Piper dans son église. Hey, Piper, lui, je l'ai aimé. La première fois que je l'ai rencontré, c'était chez John MacArthur dans une conférence. Le premier livre qu'il a écrit, c'est « Desiring God », « Désirer Dieu ». Sais-tu ce qu'il a dit? Il dit « Mes livres, achetez-les pas, achetez le premier que j'ai écrit parce que je me répète tout le temps. » J'ai bien aimé ça, cette phrase-là, ça m'a resté. J'ai bien aimé ça. Timothy Keller, « Les idoles du cœur », je vous le dis, là. Lisez ça, là, vous allez voir le combat spirituel qu'il y a là-dedans. Oui, mais les églises de Piper, Bethel, là, comment ils vivent la spiritualité, eux autres? Ah, puis, Piper, ici, Desiring God, est avec John MacArthur. Ben, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Avec John MacArthur, il y a tellement de livres qui étaient traduits, là, ce gars-là. Faut le voir. Ça, c'est l'église de John MacArthur que j'ai assisté, que plusieurs de vous ont assisté à cette église-là, n'est-ce pas? En tout cas, dans la chorale, là, il y a plus de monde dans la chorale qu'à l'assemblée ici. Là. OK? Et je me rappellerai toujours qu'à la première fois que j'ai été là, je l'ai déjà compté, quand on chantait un cantique avec 3-4 000 personnes, je pense 5 000, je ne me rappelle plus comment on était. J'ai commencé à pleurer quand j'ai entendu le cantique en anglais. C'est tout en affaire chanter un cantique, tout en gang. Puis j'étais avec Dick Mayhew qui a écrit un super bon livre qui s'appelle « The Healing Process ». C'est un gars qui vient des Assemblées des Frères. Puis j'étais curieux, vu qu'il vient des Assemblées des Frères, puis il est directeur de Masters. Puis j'ai posé la question sur le voile, sur le parler en langue, ces choses-là. Tu sais, des affaires qu'on a toutes un petit peu de misère avec. Là il dit à moi, là, moi j'étais ici, là, dans le coin, là. Vous me reconnaissez-vous, là? Je suis là, là. Non. J'étais dans ce coin-là, je me rappelle. Puis lui, il pointait du doigt l'autre coin, où il y avait la chorale. Là. Il dit, « How do you manage a church? » Comment vous arrangez tout ça, une grosse foule de même? C'est vrai, c'est une bonne question. Hey, as-tu pensé de l'organisation que ça prend pour ça? Vous pensez qu'on est gros ici, là? Mais c'est vrai, c'est au prorata, là, c'est normal, ça, pour eux autres. Sur la même rue, c'est plein d'églises qui ont autant de personnes que lui. Ils ne se disent pas la même affaire. Et là, j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment se fait ça, John MacArthur, que je lis les livres, qui est biblique, ce gars-là, puis il n'oblige pas les femmes à se mettre un couvert sur la tête, il n'oblige pas les hommes à se couper les cheveux longs. Ah, il dit, tu sais, il dit, it's a non-issue. C'est même pas un sujet pour nous autres. Il dit, garde, il dit, dans le coin là-bas, là, il dit, il y en a qui portent le voile, puis à côté, il y en a qui se lavent les pieds, les uns les autres. Il dit, c'est pas un... Il comprenait pas pourquoi c'était un issue. Bien, il comprenait parce qu'il venait des backgrounds des frères. Et ça fait réfléchir. Ça, c'est en 98 quand j'étais là. Ça m'a parti à réfléchir sur les choses principales. Il y en a un autre qui, justement, ça vient d'être traduit. Excellent, je le lis depuis des années en anglais. Vous voyez ce qui est marqué là? Erreur. Pardon? Erreur d'exégèse. Voyez-vous? Les gens qui ne sont pas intéressés de savoir ce que la Bible dit, mais sont intéressés de passer leurs affaires favoris, n'aiment pas lire un livre de même. Dave Carson, là, c'est un baptiste. Il va à Sembeck souvent. Si vous avez l'occasion d'écouter ses cours, c'est merveilleux. Moi, je crois que c'est un des érudits présentement là, qui parle français parce qu'il a été élevé dans le bout, dans le Québec. C'est un gars qui parle français, c'est un expert en grec, etc., etc. Tu sais, si tu cherches quelqu'un de qualifié, là, tu parles à ce gars-là. Je parlais justement avec Jean-Luc, qui a eu un cours avec lui, puis il n'en revenait pas comment est-ce qu'il était capable de mettre sur la table les choses compliquées. Parce qu'il y a des choses compliquées dans la Bible, n'est-ce pas? Et là, on va aller plus loin, là. On va en Europe. Ou ce qu'on entend dire, ouais, l'Europe, là, ils nivent par le bas, puis la théologie pas trop fameuse, c'est libéral au bout. Et on entend tout ça de rumeurs. Bien, on a ici Henri Blocher, qui est à la retraite maintenant, qui était un directeur d'école biblique, un homme qui écrit beaucoup, un cerveau. Même Alain Choiquet me disait qu'il est très admiré par les jeunes à cause de son intellect Et des gens en faisaient leurs idoles. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé à quelqu'un ici, là. Mais... moi, j'en ai déjà eu des hommes qui étaient des idoles pour moi. Le Seigneur les a brisés. Les idoles. Ici, il est avec Don Carson et Timothy Keller. Et ça, en fin de compte, c'est une version de Coalition Gospel ou Sola. C'est une version européenne. Puis là, je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils font pour travailler ensemble? Comment est-ce qu'ils font? Hey, je vais vous donner une citation de D.A. Carson pour le fun. Mais c'est vrai. Il a fait un document ou un petit livre qui s'appelle « Must I learn how to interpret the Bible? » Est-ce que, c'est une question qu'il pose. Est-ce que je dois apprendre à interpréter la Bible? Bonne question, hein? Peut-être une question à se poser les uns avec les autres. Est-ce que ça vaut la peine d'apprendre à interpréter la Bible? Il est important de reconnaître que les Écritures sont tous liées sur le plan culturel. Il n'y a pas de théologie concernant le couvrement de la tête, mais il y a une profonde et récurrente théologie à l'intérieur dans laquelle le couvrement de la tête du 1er siècle à Corinthe démontre l'expression d'une relation approfondie entre l'homme et la femme, entre le mari et l'épouse, et la relation de la Trinité aussi. Ça va le temps d'aller dans ça. Et ces experts-là qui nous avertissent, à fin de compte, est-ce que, Michel, dans ton tiroir unique, est-ce que tu as vraiment tout le conseil de Dieu? Parce que vous savez, le chapitre qu'on m'a confié soulève tellement de points d'herméneutique capitaux. Ça soulève des questions. Et tous les auteurs, vous allez voir, qui vont patiner dans 1 Corinthiens 11, vont vous dire toute la même chose. C'est des textes difficiles. Quand tu entends ça de quelqu'un qui a écrit des dizaines de livres sur l'herméneutique, on voit que faut être prudent puis humble, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il faut reconstruire approximatif, mais informer la situation de Corinthe. Il faut rebâtir ça. Il faut aussi reconnaître que tous les documents du Nouveau Testament, toutes les épîtres, les lettres, c'est des documents de circonstances particulières qui ont motivé l'auteur à écrire à un lecteur du 1er siècle. Et puis, il faut déterminer le genre littéraire. Les Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre doctrinal, c'est une narration de 30 ans de l'Église primitive. Ananias, Saphira, hein? Ananias compte une menterie puis il meurt. Sa femme compte une menterie puis elle meurt. Ça veut dire que les chrétiens qui comptent des menteries meurent. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ah. Vous savez, avoir un esprit critique, réfléchir ce qu'on lit, chercher la face de Dieu, chercher la pensée de Christ, c'est noble. Et ça l'explique, à fin de compte, les 33 000 dénominations qui se disent chrétiens. Et ça l'explique dans le monde évangélique, parce que j'ai dans mes outils là, une liste plus exhaustive et plus près de nous de toutes sortes de pensées. Puis je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'ils font pour travailler ensemble, louer ensemble, évangéliser ensemble, faire des projets ensemble? Comment est-ce qu'ils font si ils sont différents dans leurs pensées que de l'autre? Et l'autre fait un péché, puis il dit rien. L'autre fait un autre péché, puis il dit rien. C'est bizarre. Paul, en 51 après Jésus-Christ, était à Corinthe, Il écrit d'Éphèse vers 54-55, et nous, on est au Québec en 2016. Wow! On est au Québec en 2016. Pensez-vous qu'il y a un travail à faire pour bien comprendre le texte? Vous savez, là, je résume vite, mais ce qu'on va aller chercher, à fin de compte, c'est l'auteur. Je lisais Cone, qui vient d'être traduit en français, un bon livre d'herméneutique. Et une de ses argumentations, Cone, il disait justement, « Écoute, il faut que tu remplis, il faut que tu considères la culture dans laquelle l'auteur vivait. » Les circonstances que Paul vivait, l'époque que Paul vivait, et les circonstances qui font qu'il entend la maison de Chloé, il entend du monde qui disent « Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. » Voici des questions à partir du chapitre 7. Paul, aide-nous parce que cette église-là va mourir. Il y a du désordre. Et l'auteur se met à écrire. Et notre défi, c'est de embarquer dans la machine à reculer dans le temps, puis retourner au premier lecteur, le premier qui a lu la lettre des Corinthiens quand on a lu ça. Qu'est-ce qu'eux ont compris? Faites l'exercice. Répondez à une question sans connaître la question. On ne connaît pas la question, nous. On déduit la question. Donc, si on est sévère, puis on est... Je vais activer. Le contexte social. Donc, c'est un processus. Inspiré de Dieu. Ça part par des écrits du 4e-3e siècle. En onciale en plus, parce que les cursives sont arrivées au 9e siècle, en onciale, puis on dit, les originaux sont inspirés de Dieu. OK? Ça, c'est une copie de l'originaux. Il y a des, au-dessus, F.F. Bruce a écrit un merveilleux livre, « Peut-on se fier aux documents du Nouveau Testament? » Je vous encourage à lire ça. Au plus de 5000 manuscrits, des familles de manuscrits, c'est tout expliqué ça. Et là, nous, on a observé les Écritures. Et là, on a au-dessus de 80 traductions. Si vous avez affaire à l'anglais, vous en avez encore plus. Il y a l'anglais, l'allemand, il y en a toutes sortes de traductions. Si vous avez des Bibles online, là, regardez ça, vous allez voir. Là. Il y a énormément de traductions. Et il y en a qui pensent que, wow, un instant, il y a juste la 1910 qui est inspirée de Dieu. Non, non, you want to know why there's only one Bible? La King James. Non, non, c'est Osterwald. C'est Osterwald la meilleure. Et là, on a des écoles de pensée qui viennent dire que ta Bible n'est pas vraiment la parole de Dieu. Il sort une nouvelle traduction 21. Ah, je ne l'aime pas, j'aime bien Darby. Pas grave. Mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est une traduction qui traverse un champ sémantique du langage, qui met dans les paroles d'aujourd'hui un texte qui va aller chercher la pensée des personnes et bien faire comprendre l'Évangile aux gens. Donc, de l'observation. Puis l'observation, en fin de compte, c'est quelque chose qui nous emmène à un mur. Oui, tout un mur. Il faut traverser le mur littéral, la littérature, quelle sorte de littérature, le genre littéral, culturel, historique, géographique, économique. Et j'ai un autre livre d'herméneutique, là, si vous voulez le voir, il y en a plus que ça. Ça doit-tu nous décourager? Non, mais ça doit nous avertir d'être poli avec l'interprétation de la Bible, d'être humble avec l'interprétation de la Bible. On arrive à plusieurs applications. Ah, ben moi, je ferais ça comme ça. Non, ça dit ça. Et là, on fait des applications dans nos vies. Et On est tous heureux de ça. Youpi! On a compris. OK? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu comprends? Ça, c'est moi, entre 20 et 30 ans. J'avais un tiroir dans ma tête. Tout était là. Ça ne bouge pas. C'est biblique. C'est pas ça. C'est pas comme moi. C'est le péché. Ça finit là. Entre 20 et 30 ans. 35, j'ai commencé à réfléchir. C'est drôle quand tu pognes 40 ans, comment est-ce qu'il y a un paquet d'affaires, hein? On va remarquer ça. Tu commences à réfléchir les choses. Un moment donné, j'ai tombé sur un article extraordinaire de William McDonald. Tu sais, celui qui a fait le chercheur, là. William McDonald a fait un article de 8 pages sur le problème. Puis lui, il parle des choses encore. Ah, c'est pas fiable, hein, cette affaire-là. Il parle des choses difficiles, des choses qui nous divisent. Il parle de 3 tiroirs. Au lieu d'avoir un tiroir, il y a 3 tiroirs. Et là, avec ces 3 tiroirs-là, il faut que tu dises que le premier tiroir, c'est les choses essentielles, non négociables. Dans le deuxième tiroir, c'est les choses importantes. Importantes, mais non essentielles. Et il y a les choses non essentielles dans le troisième tiroir. Et j'avais 3, j'espère que ça va marcher parce que j'ai des démonstrations à vous montrer rapidement. On la regarde de feuille la prochaine fois, on va être capable. OK, on va arrêter. On va aller vite. Hey, on a pas mal de fêtes, hein? Et 3 tiroirs. Ça m'a aidé, vous ne savez pas comment. Puis j'ai commencé à regarder ailleurs. Fais des voyages. Aller ici, aller là. Parce que dans le fond, les choses fondamentales, tu sais, Jude nous parle, en fin de compte, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et ça, ce n'est pas la foi subjective, là. Ce n'est pas « j'ai foi » ou « j'ai pas foi ». Ça, là, c'est le corps de doctrine. Le corps de doctrine a été transmis une fois pour toutes au saint, à l'Église. Et c'est ça qui va dans le premier tiroir. Des choses non négociables. Il y a des choses aussi importantes, mais non fondamentales. Et là, Matthieu 23, McDonald, il prend ce texte-là, qui compare, en fin de compte, les pharisiens avec la dîme, qui exagère la dîme, qui compte les plantes, les semences pour donner 10 % à Dieu. Et ils ont, tu sais, ils devenaient plus justes que Dieu, les pharisiens. Et le Seigneur lui dit ceci, vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Il y a des choses plus importantes. Nous, on voit la loi comme une ligne de main. Il y a des choses plus importantes, puis il va les mentionner. C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses, oui, mais en premier. Et ensuite, pratiquer votre dîme selon les Écritures. Voyez-vous? Et si vous avez tordu les Écritures, vous, les pharisiens, puis vous avez exagéré la dîme, soumettez-vous à la parole de Dieu. La justice, la miséricorde et la fidélité vont en premier. La dîme en deuxième, pour Israël. Puis ensuite, ce qui n'est pas important pantoute, c'est la manière qu'il faisait. qui comptait les plantes, les semences, pour en donner 10 % à Dieu. Les points essentiels. Les points non essentiels. Encore 1 Corinthiens, on ne peut pas faire tous les chapitres, mais l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 8:8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Puis c'est une question, il répond à une question, on n'a pas le temps là. Mais il répond à une question, puis il répond oui puis non à la même question. Dans certaines circonstances, un jeune frère qui vient au Seigneur, tu ne vas pas exprès pour manger de la viande, qui sait fort bien que tu es sacrifié aux idoles. Il y avait 26 temples païens à Corinthe. Ça scandalisait parce qu'il avait passé sa vie à adorer ces païens-là. Puis croire que ça, c'était offert à des dieux. Ah, tu vas m'arrêter là, on est trop loin avec ça. On va revenir là-dessus s'il faut. Donc, 1, 2, 3. Le fondement de la foi, les choses importantes mais non fondamentales, puis les choses non essentielles. Test numéro 1. Regardez ça. Dans quel tiroir vous allez mettre ça? Ce que nous mangeons, le salut par la foi seul en Jésus-Christ ou prendre le repas du Seigneur seulement le dimanche matin? Là, je vais vous donner ce que je pense, mais vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Mais si vous manquez le premier tiroir, venez me voir. OK? Merci. Bon, moi, je mettrais ça à un. Vous? Non, mais non, il y en a d'autres plus compliqués, ne répondez pas. Moi, j'ai mis 2. C'est important pour moi, prendre un repas, mais dans les actes, on voit, n'est-ce pas, dans Actes 20, 7 à 11, on voit que Paul prend le repas du Seigneur le lundi. Ça fait que ce n'est pas un péché. Si ce serait un péché, il aurait dit, non, on va attendre dimanche prochain avant de prendre le repas du Seigneur. On ne le prendra pas. Et, écoute, ce n'est pas un anonymat qui nous rapproche. Tu sais, il y en a qui se font des cas de conscience. Ah, du boudin, du boudin. Mange-en pas, ce n'est pas bon pour la santé. Mais dis pas que ceux qui mangent du boudin font un péché. OK? Deuxième test. Version de la Bible à lire. Le baptême par immersion, Jésus est Dieu. Premier tiroir. Bon, moi, je pense que mon maître Jésus est Dieu. Et quand j'arrivais au baptême, je me suis dit, ou la version de la Bible, j'étais sûr que je mettais toi. Mais j'ai eu de la misère avec le 2 et le 3. Pas cette année, là. Ça fait longtemps que je me pète de ça. Là. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui pratiquent le baptême par aspersion. Il y en a qui pratiquent le tribaptême. Ils baptisent 3 fois la personne. Au nom de Jésus, il sort. Au nom du Saint-Esprit, il sort. Au nom du Père, il sort. Non, il commence par le Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il sort 3 fois. The Grace Brethren, c'est ce qu'ils font, là. C'est ce que Barclay est parti, là. 3 fois. Il y en a... Bien, je connais un gars, moi, qui était là au ciel sans se faire baptiser. La connaissez-vous? C'est qui? Voilà. Est-ce que je peux dire que c'est un péché, pas se faire baptiser? C'est un manque d'obéissance? Vous allez dire, ouais, mais... Savez-vous, dans le temps des persécutions, dans le temps des Broadbent, quand ils parlent, l'Église torturée au travers des siècles, qui prenaient leur pas du Seigneur avec rien, faisaient semblant de prendre le vin, faisaient semblant de prendre le jus de la vigne, faisaient semblant de prendre le pain sans le vin, faisaient semblant de prendre le pain. Mais il n'y avait rien. Voyez-vous, à quelque part, ce qui est le symbole a dépassé dans certaines places ce qui est symbolisé. L'important, c'est Jésus. Donc, moi, je les ai mis comme ça. La version de lui, bien, moi, j'ai changé de version au cours de ma vie. Là, je suis rendu avec la colombe. J'ai lu toutes les versions parce que ça m'aide à réfléchir plus. Parce que dites-vous la même affaire, c'est comme les chapelets d'autrefois, tu sais. Là, vous allez... Quand tu changes de version, même je vous dis, si vous êtes tanné de lire la Bible, changez de version, vous allez voir, c'est excitant. Ça vous force à réfléchir un peu plus. Regardez ça. Ah, celle-là, là, pas facile. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Se laver les pieds les uns les autres, puis la résurrection du Seigneur. Mais là, OK. Disons que je vous ai donné le premier tiroir. Avez-vous remarqué que c'est plus facile, le premier tiroir? Oui. Et puis, ouais. Vous savez, à l'impératif, quatre fois c'est mentionné dans la Bible de saluer avec un saint baiser. Hein? Paul et Pierre le mentionnent. Avez-vous déjà étudié le saint baiser? Là, les mononcles de taponeux, là, on ne parle pas de vous. Là. J'en ai vu de ça. Là. C'est quoi le saint baiser? J'ai lu, moi, au premier siècle, dans le premier siècle, comment ils faisaient ça. Là, il est ennemi. Je vais arrêter là. Parce qu'on est strict, mais la semaine prochaine, je continue ça, puis je vais embarquer avec l'autre. Mais ce que j'ai pour vous, là, j'ai oublié de l'emmener, Diane. J'avais dans mon sac 50 feuilles de tiroir que je voulais à donner à ceux qui voulaient avoir ça, puis le faire, puis me le ramener la semaine prochaine. Ça serait intéressant de voir comment. Là, j'ai mis 15 doctrines, là, 15 choses. Et je m'en vais aller en arrière après la prière. Oui, j'ai laissé mon chose là-bas avec les livres. Et venez me voir si vous voulez ce feuille-là. J'en ai un que 50, je n'osais pas donner à tout le monde. Mais bien, je vous dirais, là, ceux qui sont mariés, là, prenez-les, là, le gars sur un bord, puis la fille sur l'autre bord. Puis faites-le individuel. Après ça, comparez-vous toutes les deux. C'est tellement le fun de faire ça. Je l'ai fait faire à Diane. Là. Ah, que c'est le fun. Mais prenez ça comme un jeu pour essayer de réfléchir. C'est quoi qui est non négociable? Ça, c'est négociable. Des fils qui traînent. Mais je vais arrêter là. J'ai une autre conclusion, mais c'est pas grave. Je veux vraiment respecter le temps. On est dépassé 2 minutes. Je ne veux pas me faire lapider. Mais je vous remercie de votre patience. Mais est-ce que vous avez compris ce que je m'en vais avec tout ça? Faites un petit signe de la tête pour me rassurer. Là. OK. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour le temps ensemble. Et Seigneur, on remet toutes choses entre tes mains. Puis sois avec nous la semaine prochaine pour continuer. Et de mettre sur la table, Seigneur Dieu, une réflexion ensemble. Afin qu'on puisse réfléchir, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Aide-nous de mettre les choses à la bonne place, ce qui est prioritaire à la bonne place, à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.